On raconte l'histoire étrange d'une bande de voleurs qui pénétra, de nuit incognito, dans un des plus grands et plus beaux magasins de Paris sur les Champs-Élysées. Jusque-là, ce n'est qu'un fait divers parmi d'autres. Mais ce qui rend cette affaire peu banale est que ces bandits n'ont absolument rien dérobé. Par contre, ils ont échangé les étiquettes de prix. C'est ainsi qu'ils ont attribué à certains vêtements très onéreux un coût dérisoire, alors que des objets en plastique, sans valeur, ont vu leur prix multiplié par 20 ou plus. Un tableau d'un artiste connu vaut 5 euros et une belle montre suisse 4 euros. Par contre, un bijou fantaisie en verre fabriqué en Chine coûte maintenant 800 euros et un poster quelconque 400. Le plus bizarre dans cette histoire burlesque est que ni le personnel, ni les clients ne sont aperçus du superfuge. Les affaires continuent comme si rien n'était et tout le monde paie rubis sur l'ongle le prix indiqué sans remarquer qu'il est absurde. Ce n'est pas possible, me direz-vous. Eh bien, dans un certain sens, si. Dans le monde où nous vivons, les valeurs que la plupart des gens, et surtout les jeunes, donnent aux traits de caractère d'un futur conjoint, sont complètement chamboulées, et la confusion est très grande. Ainsi, on va placer une étiquette de 4 euros sur la fidélité, alors que, comme pour une montre suisse, c'est une qualité de quelqu'un sur lequel on peut toujours compter jour après jour, malgré l'usure du temps et quelques petits écablouissements ici et là. On évalue la beauté intérieure d'un caractère vertueux à 5 euros, alors que, tout comme un tableau de maître, on en profite toute une vie. Par contre, on attribue 800 euros à un bracelet en verre parce qu'il brille et attire les regards, et on évalue à 400 euros l'imitation minable d'un caractère doux et fort parce que nous sommes incapables de faire la différence entre une œuvre d'art et une copie. Les valeurs que nous donnons aux attributs de quelqu'un doivent refléter ses qualités intrinsèques mesurées sur le long terme. Par exemple, une personne ponctuelle est le plus souvent fidèle à sa parole. Mais celui qui aime bien sortir en boîte, ça va bien une fois de temps en temps. Mais si c'est toutes les semaines, on s'en lasse et ça devient un gaspillage de ressources, de temps et d'argent. Sans parler de l'aspect moral, un foyer se construit sur du roc et pas sur des sables mouvants. C'est aussi ce que pensent la Sulamite et Salomon. Je continue de lire le premier chapitre du Cantique des Cantiques, où nous arrivons au second cliché, du photographe visible qui suit l'aventure de nos deux amoureux. « Ô filles de Jérusalem, je suis bronzée et pourtant... je suis belle, pareille aux tentes de Kédar, aux tentures de Salomon. Ne vous étonnez pas si je suis bien brunie. Le soleil m'a hâlée, car les fils de ma mère, irrités contre moi, m'ont fait garder les vignes, oui, mais ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Cantique des Cantiques, chapitre 1er, les versets 5 et 6. Littéralement, le soleil m'a regardé, comme si c'était une personne. Nous sommes toujours dans le palais royal et c'est la Sulamite qui parle. Alors que la première photo a révélé le caractère de Salomon, ce second tableau nous renseigne plutôt sur la Sulamite. Elle est d'origine très humble et la façon dont elle s'exprime semble indiquer que son père est mort, ce qui augmente encore sa situation pathétique. Par ailleurs, on constate qu'elle n'est pas sûre d'elle, et même anxieuse au milieu des femmes de cour. Ça se comprend, car ces belles dames en jettent. Elles ont le teint délicat, portent de magnifiques toilettes et de beaux bijoux qui scintillent de tout leur feu. Et en plus, elles regardent la Sulamite comme on observe un animal dans un zoo. Alors, vous pensez bien que la jeune bergère qui n'a jamais vu un tel spectacle est très impressionnée, mais aussi complexée. Voilà pourquoi elle s'excuse de son bronzage, qui révèle aussi sa condition sociale de petite paysanne. Soit dit en passant qu'aujourd'hui, les rôles sont plutôt inversés, puisque, surtout chez les jeunes filles, l'aspect cachet d'aspirine n'est pas cool. Alors elles cherchent à brunir au maximum, en été, sous le soleil bien sûr, mais également en hiver, en allant au moins une fois par semaine dans un salon de bronzage. La Sulamite n'a pas eu de choix. Née dans une famille pauvre, elle a ce fil, elle devient vite une sorte de cendrillon. Elle raconte que ses demi-frères se sont fâchés contre elle, sans qu'on sache pourquoi. Elles l'ont forcée à travailler jour après jour, dans les vignes paternelles, sous un soleil de plomb. Voilà pourquoi elle est basanée et qu'elle dit « Ma vigne à moi ». Sa propre vigne, c'est-à-dire son teint, a été négligée. Elle n'a pas eu le loisir de soigner sa personne, garder sa peau bien blanche et se faire une beauté. Comme elle se sent intimidée, à cause de son apparence, elle exprime le désir de rejoindre son bien-aimé auprès de qui elle sait qu'elle se sentira en sécurité. Pourtant, elle croit savoir qu'elle est belle. Ce qu'elle dit d'un air embarrassé, avec une certaine humilité, puisqu'elle se compare à des tantes très foncées. Kedar est le nom du second fils d'Ismaël, fils d'Abraham, dans Genèse 25, verset 13, Jérémie 49, verset 29, et aussi le nom de la tribu issue de lui qui s'est fixée dans le nord de l'Arabie, en Jordanie donc, et dont les membres vivent sous des tentes confectionnées avec des peaux de chèvre noire. On sait aussi qu'après plusieurs texte biblique, que cette tribu possède de nombreux troupeaux et que ce sont des combattants redoutables. Ésaïe, chapitre 21, les versets 16 et 17, Ézéchiel 27, verset 21. Je continue de lire le texte et nous arrivons au troisième cliché du paparazzi invisible qui suit l'aventure amoureuse entre Salomon et la Sulamite. Ô toi que mon cœur aime, dis-moi où tu fais paître ton troupeau de brebis, où tu feras la halte à l'heure de midi, pour que je ne sois pas comme une femme voilée, rôdant près des troupeaux que tes compagnons gardent. Si tu ne le sais pas, ô toi, la plus belle des femmes, va donc suivre les traces du troupeau de brebis. Fais paître tes chevrettes près des huttes des pâtres. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Versets 7 et 8. Retour en arrière quand Salomon berger commence tout juste à fréquenter la Sulamite dans les environs de son village au Liban. Elle a appris à aimer ce charmant berger, mais se rend compte qu'elle ne sait rien de lui. Alors un jour, elle lui demande de lui dire où il garde ses troupeaux afin de se renseigner sur lui. Sa question montre aussi qu'elle désire être respectée. En effet, elle n'a pas l'intention de battre la campagne et de se mettre à la recherche de son berger bien-aimé à l'aveuglette, car alors on risque de la prendre pour une femme voilée, un euphémisme pour une prostituée. Genèse 38, les versets 14 et 15. Elle ne veut pas surtout faire mauvaise impression ou quoi que ce soit qui puisse être mal interprété. Non seulement la Sulamite est belle, mais c'est une femme vertueuse, humble et digne qui veut obéir aux règles de bienséance de son temps. Comme Salomon ne veut pas révéler sa véritable identité, il répond à côté de la question sous forme d'énigme. Il lui dit que si elle va paître ses chevrettes avec les autres bergers, on ne prêtera pas attention à elle. Et à midi, lorsque les troupeaux se rassemblent et se reposent autour d'un point d'eau, elle fera la connaissance de tous les bergers et pourra savoir qui il est. Mais comme ses frères contrôlent tous les aspects de sa vie, on peut être sûr qu'ils ignorent qu'elle a un bien-aimé. Et Salomon sait qu'elle n'osera pas entreprendre une telle démarche. Ce troisième cliché nous donne aussi des renseignements complémentaires sur Salomon. À côté de ses responsabilités de roi, il aime les jeux de rôle. Il a choisi de se faire passer pour un simple berger, et il est probable qu'il se mêle de temps en temps à ceux qui sont à son service. Dans les chants d'amour de cette époque, les amoureux prennent fréquemment une autre identité qui reflète la façon dont ils veulent se comporter l'un envers l'autre. Dans le Cantique des Cantiques, la Sulamite est tour à tour une humble bergère, Cantique 1, verset 6, et une princesse, Cantique 7, verset 2. Elle désire aussi être la sœur de son bien-aimé, Cantique 8, verset 1er. Et une estampille sur son cœur et son bras. Cantique 8, verset 6. Quant à Salomon, il est tour à tour, Cantique 3, verset 7, 9 et 11, hébergé, Cantique 1, verset 7. Ses rôles sont comparables aux enfants qui jouent au papa et à la maman, au docteur et au malade, aux gendarmes et aux voleurs, ou qui prétendent être un de leurs héros préférés. Cette activité ludique, occasionnelle de Salomon, et ses escapades lui permettent de se défaire des fastes et de l'hypocrisie de la cour et de se ressourcer afin de goûter aux plaisirs simples de la nature. Et en second lieu, ce nouveau rôle révèle un trait de son caractère. En effet, un berger travaille de longues heures pour un maigre salaire, mais il commande le respect parce qu'il est doux, tendre, compréhensif et patient avec les animaux dont il a la charge périodiquement. Il doit les inspecter un à un pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Il doit aussi être fort et courageux afin de défendre son troupeau contre les bêtes sauvages. C'était le cas de David avant qu'il ne devienne roi. Dans le premier livre de Samuel, il explique au roi Saül: quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attrapais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais à mort. 1 Samuel 17, versets 34 à 35. La Sulamite apprécie toutes ses qualités chez son bien-aimé, ce qui est tout à son honneur car elle montre qu'elle possède les vraies valeurs et sait les discerner chez autrui. Après avoir appris à se connaître, Salomon et la Sulamite ont su faire une estimation juste de leurs qualités réciproques. Soit dit en passant, les vertus de ces deux amoureux sont à rechercher par ceux qui cherchent un conjoint. Salomon ne s'est pas laissé tromper par les apparences. Il n'a pas tenu compte du fait que cette bergère n'est pas de son niveau social et qu'elle est brunie par le soleil, voire même très basanée, puisqu'elle dit « Je suis pareil aux tentes de Kédar », Cantique 1, verset 5, qui, comme je l'ai dit, sont pratiquement noires. Or, à cette époque, comme presque tout le monde a le teint foncé, c'est le blanc laiteux qui symbolise la beauté. Au niveau moral, la couleur de la peau n'a aucune importance, car ce sont les qualités de cœur et la force de caractère qui ont de la valeur. Cela dit, au niveau physique, nous savons que le soleil peut être dangereux, surtout à cause des rayons ultraviolets qui sont à l'origine du vieillissement de la peau et peuvent même déclencher des cancers. Les jeunes s'en inquiètent assez peu, et même pas du tout, parce qu'ils ont le sentiment d'être indestructibles. Je le sais, parce que j'étais comme ça moi aussi. Seulement, quand on est plus âgé, on paie les pots cassés. Moi, par exemple, adolescent, je ne me suis pas méfié du soleil, et comme j'aimais beaucoup me baigner, j'étais souvent au soleil. Le résultat est comme maintenant. Sur les bras en particulier, je n'ai plus de joli bronzage uniforme super cool, mais des taches marronnes et des décolorations blanches qui sont moches. Le soleil est une bonne représentation de Dieu dans le sens que la plupart des gens croient qu'il peut s'approcher de lui sans protection. Fatale erreur, car l'Écriture dit qu'il est lumière et qu'il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. 1 Jean 1:5, 1 Timothée 6:16, et l'Éternel a dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Exode 33, verset 20. Dans l'Évangile, selon Jean, il est écrit aussi « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » 1 Jean 1,18, Bible de Louis II. Vous et moi n'avons accès à Dieu qu'à la condition expresse d'avoir endossé la robe blanche de la justice parfaite de Jésus-Christ. Apocalypse 7, verset 9. Elle seule nous protège de la juste colère de Dieu. Non seulement le soleil illustre bien Dieu, mais la tsunamite est une image spirituelle appropriée qui représente bien l'humanité quand elle dit avec une certaine gêne dans la voix. Je suis bien bruni. Le soleil m'a hâlé. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5. En effet, il n'est pas rare pour le commun des mortels de penser que Dieu s'intéresse à lui parce qu'il est excusable pour ses fautes. Mais un petit enfant, en réalité, aux yeux de Dieu, nous sommes spirituellement affreux, bien plus moches que des poux. Contrairement à la Sulamite, qui est noire mais belle, nous n'avons rien en nous qui plaise à Dieu. Cependant, dans sa grâce, il veut transformer tous les croyants pour en faire une magnifique mariée, qui est l'Église, et qui épousera le Christ lors d'une fête somptueuse et éternelle que l'Apocalypse appelle le festin des noces de l'agneau. Apocalypse 19, les versets 7 à 9. Je résume un passage. Le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole. Il a ainsi voulu présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Éphésiens 5, les versets 25 à 27. En attendant ce jour glorieux, le Saint-Esprit opère une transformation intérieure chez tous les croyants que le Nouveau Testament appelle la sanctification. C'est comme si Jésus emmène ceux qui lui ont fait confiance dans le divin salon de beauté afin qu'ils y subissent une métamorphose de manière à ce qu'ils deviennent ensemble sa mariée rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut. La Sulamite travaillait le vignoble familial quand quelqu'un, ayant la mise d'un berger, est arrivé et a commencé à lui conter fleurette. Ils se sont revus et avec le temps, l'amour est né entre eux. C'est comme simple berger que Salomon a fait la cour à sa belle. Il n'a pas cherché à l'impressionner avec ses richesses ou sa position de roi parce qu'il voulait la séduire par ses propres mérites, avec ses qualités d'homme. Quand le Seigneur Jésus a gagné l'Église, son épouse, c'était aussi en tant que berger et roi, comme Salomon a délibérément choisi d'endosser le rôle modeste de pâtre pour séduire sa bien-aimée. Pareillement, l'humilité du Christ était sa principale caractéristique avant sa résurrection. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, selon une lecture typologique du texte, Salomon représente Dieu. Cette interprétation est très cohérente avec les textes sacrés où l'image du berger apparaît fréquemment pour représenter l'Éternel vis-à-vis d'Israël ou Jésus-Christ vis-à-vis des croyants. Par exemple, dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi. Il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. » Jean chapitre 10, les versets 14 à 16. Les brebis qui connaissent Jésus sont les Juifs qui croient en lui, tandis que les brebis qui ne sont pas de cet enclos sont les païens qui plus tard se convertiront à la foi chrétienne. Ce processus a commencé au tout début de l'Église, dans le livre des Actes, Luc écrit. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, mais ils annonçaient la parole aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, en Afrique du Nord, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Acte 10, les versets 19 et 20. Dans les Écritures, les agneaux, les brebis, ou comme ici, les chevrettes, représentent le plus souvent les animaux en tant que tels, mais ils sont souvent aussi utilisés au sens figuré comme symbole pour les vrais croyants. Par exemple, dans l'Évangile, selon Matthieu, on lit « En voyant les foules, Jésus fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. » Matthieu 9, verset 36, comparez Matthieu 25, 32 et Jean 21, 15, ainsi qu'Hébreu 13, 20 et 1 Pierre 2, 25. Et l'apôtre Pierre dit de Jésus qu'il est le souverain pasteur des brebis. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Les clichés que le paparazzi a déjà pris décrivent la situation et le caractère de la Tsunamite. Elle est très digne et ne manque pas de solide qualité, mais en même temps, elle est quelque peu complexée de se retrouver à la cour du roi Salomon comme un cheveu sur la soupe. Il faut dire qu'elle passe le plus clair de son temps à travailler dans le vignoble ou bien à garder ses chevrettes. Alors bien sûr, elle n'a ni le loisir de se faire une beauté, ni les moyens de s'offrir l'une de ses toilettes somptueuses et l'un de ses bijoux magnifiques que portent les dames de cour. Quand elle se regarde dans un miroir, elle ne remarque que son apparence négligée. Très consciente d'elle-même, elle se sent intimidée. Il va de soi que la Tsunamite ne possède pas non plus les grâces sophistiquées des courtisanes, car elle ne s'est jamais souciée de paraître, de marcher et de se tenir comme il se doit, d'avoir bonne allure. Et pourtant, elle est probablement une créature de rêve, d'une beauté naturelle, à vous couper le souffle. Et c'est en tout cas de cette façon que Salomon la voit. Et si elle avait pu s'observer au travers de ses yeux, au lieu d'être complexée, il ne fait aucun doute qu'elle aurait été fière de son apparence. Quand le roi la regarde, c'est avec amour et tendresse. D'ailleurs, tout au long du cantique, il l'appelle 9 fois « ma bien-aimée ». Cantique 1, verset 15, 2, verset 2, 10, 13, 4, verset 1 et 7, 5, verset 2, 6, verset 4. Car pour lui, la Tsunamite est la plus belle fille du monde, ce qu'il lui a déjà fait savoir quand il a dit « Ô toi, la plus belle des femmes !» Cantique 1, verset 8. On considère généralement que la beauté est une appréciation toute personnelle et seule une mariée fait presque toujours l'unanimité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'un passage vers la fin du livre de l'Apocalypse, compare la nouvelle Jérusalem céleste à une mariée. Ce sera la cité éternelle et permanente des croyants. Je lis le passage. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Apocalypse 21, verset 2.